RCF.
Bonjour. Donc, je suis aujourd'hui avec Karine Ritan, qui est la fondatrice d'Appel d'air consultant, qui est un organisme qui est spécialisé dans les gouvernances collaboratives et qui met des gouvernances qui mettent en jeu ce qu'on appelle l'intelligence collective, on y reviendra tout à l'heure, dans les domaines de la biodiversité, de l'innovation économique et sociétale. Vous avez été directrice du parc naturel régional des Alpilles. Vous êtes experte auprès de l'Union internationale de la conservation de la nature, administratrice d'humanité et biodiversité, dont le président d'honneur est Hubert Reeve. Merci, bienvenue.
Merci à vous.
Et donc, peut-être on pourrait commencer cet entretien par ce que vous appelez ou ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence collective. C'est-à-dire, c'est quelque chose que l'on voit apparaître dans les médias, qui a une histoire aussi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce concept d'intelligence collective ?
Alors effectivement, ce que je peux en dire aujourd'hui, c'est que c'est quelque chose qui se développe très très vite aujourd'hui et que je pense que dans 10 ou 15 ans, 20 maximum, on se demandera sincèrement comment on a pu faire autrement que de fonctionner, que de travailler, que de penser, que d'agir en dehors d'un principe d'intelligence collective. Je ne vais pas refaire toute l'histoire, ça serait un peu rébarbatif en plus, mais je trouve qu'un de ceux qui a su traduire le mieux la nécessité, en tout cas, de l'intelligence collective, c'est sans doute Edgar Morin. Parce que c'est le premier qui a travaillé sur cette idée de complexité au sens tissé ensemble, tout ce qui est tissé ensemble. Et quand on a une diversité d'acteurs qui sont concernés par un sujet, la capacité à tisser ensemble une solution, ou ne serait-ce qu'à tisser ensemble un diagnostic, fait déjà partie de la solution et fait déjà partie du grandir ensemble. Sinon, ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas n'importe quand. Et c'est vrai qu'on a tendance, souvent ce qu'on me dit, c'est « oulala, si les gens commencent à dire ce qu'ils pensent tous autour de la table, ça va être rapidement le chaos, il faut de l'organisation ». Et oui, il faut énormément d'organisation, de méthodes, ça s'apprend comme un langage, comme on apprend à parler. Mais effectivement, ça permet d'avoir d'autres organisations, non seulement des pouvoirs, des acteurs, des solutions et des questionnements.
Alors concrètement, ça se passe comment ?
Alors ça se passe de différentes façons. Il existe énormément d'initiatives en France à ce sujet. Je vais citer par exemple quelque chose qui se passe en Bretagne chaque année, qui s'appelle les 360 possibles et qui est en fait une organisation sur l'innovation économique, l'innovation en entreprise et comment innover, notamment en s'appuyant sur des méthodes d'intelligence collective. Et cette méthode dont on parle assez souvent, qui s'appelle le design de service, qui est une méthode qui vient des États-Unis, qui est nord-américaine et qui permet de concrétiser très très vite les idées qu'on peut développer ensemble et de les confronter à la réalité. Donc ça, c'est en Bretagne. Ensuite, moi, comme vous l'avez dit, je suis beaucoup plus axée sur les questions de biodiversité et d'intégration de la biodiversité dans les domaines économiques et dans les domaines sociétaux. Et un des exemples, moi, qui me tient le plus à cœur, c'est ce groupe qui s'appelle Gatsby. Donc c'est un groupe d'échange entre aménageurs et scientifiques sur la biodiversité et les infrastructures. C'est le groupe même qui a trouvé le nom. Alors évidemment, on dit que Gatsby, c'est magnifique. Et c'est parti d'un constat, c'est qu'on allait droit dans le mur sur ces questions de biodiversité, d'intégration de la biodiversité dans les projets d'aménagement. Un projet d'aménagement, c'est les routes, les autoroutes, les transports d'énergie, les lignes à haute tension. Et on a constaté, il y a 3-4 ans, avec Thierry Tatoni, qui est un scientifique, directeur de recherche et qui est directeur d'un laboratoire qui réunit l'IRD, le CNRS et l'Université d'Aix-Marseille, qu'on allait droit dans le mur et qu'il y avait une sorte d'impossibilité, voire d'incapacité à avancer si chacun restait dans un système en silo. Voilà, je crois que et ça s'applique un peu à tout. Et on a fait ce pari-là d'essayer de réunir ces deux communautés, donc d'une part des scientifiques en charge de réfléchir, de travailler, de faire de la recherche sur la biodiversité, qui soit issue de la biologie, qui soit issue des sciences sociales également, hein, de la philosophie, de la sociologie, et de l'autre côté, des aménageurs, c'est-à-dire des constructeurs de routes, d'autoroutes, de transport d'énergie, photovoltaïque, etc. On nous a pris un peu pour des fous quand même au départ. Et on a fait ce pari d'essayer de faire en sorte déjà de se parler. Et pour ça, on a utilisé des méthodes d'intelligence collective qui permettent de s'appuyer sur des piliers un peu fondamentaux, qui paraissent évidents, qui sont la bienveillance, la légitimité de chaque individu, c'est-à-dire vous pouvez être prix Nobel de physique ou directeur de l'environnement dans une entreprise de BTP, vous avez le même poids de parole. Vous avez une diversité d'apports, bien sûr, mais vous avez le même poids de parole. Donc l'écoute, ça c'est vraiment quelque chose qu'on essaie de développer, en tout cas pendant les travaux, et ça marche. La créativité, l'innovation, et le fait de pouvoir dire à n'importe quel moment son inconfort. Et de travailler en confidentialité, ce qui permet de pouvoir travailler en fait en sécurité. Et on développe des méthodes, il existe énormément de méthodes en France, dans le monde, pour développer de l'intelligence collective. On entend beaucoup parler des World Café, des forums ouverts, j'en ai parlé du design de service aussi. Moi je développe mes propres méthodes à partir également d'outils qui existent, mais qui permettent avant tout de pouvoir échanger en sécurité et de s'apercevoir qu'on construit forcément 1 plus 1 ne fait pas 2, mais 1 plus 1 fait 4, 5, 10, parfois 100.
Oui, merci de ces précisions, parce qu'on est frappé aujourd'hui de voir des décisions, que ce soit au niveau local, tout dans un village ou dans une ville moyenne, des décisions dont on nous dit qu'elles ont été concertées et qui en réalité paraissent quand même, malgré la concertation, je dirais, tomber de haut, enfin, ou tomber d'en haut. Et c'est ce que vous proposez, enfin l'intelligence collective, c'est bien au-delà de la concertation.
Exactement. La concertation, c'est on prend une décision et on va voir un groupe de personnes ou un public et on leur demande ce qu'ils en pensent. L'intelligence collective, on crée la solution ensemble. Ça n'empêche pas de fixer le cap. Souvent, je pense qu'il y a une méprise sur le fait qu'il n'y aurait pas de cap, il n'y aurait pas de. Alors, j'aime pas le mot leader, mais il n'y aurait pas de cap donné par un groupe, par une personne qui dit voilà mon intention d'aller par là. Et ça peut tout à fait se faire à l'échelle d'une commune. Hein. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Mais la manière de travailler va être différente. Le projet va être co-construit sur un questionnement qui va être donné par quelqu'un. Dès le départ, par exemple, à l'échelle d'une commune, je prends un exemple que j'ai en tête, un maire qui souhaite installer une centrale photovoltaïque dans sa commune. Les questionnements qui s'est posé en premier lieu, c'était et si on travaillait sur une commune autonome en énergie ? Personne pouvait critiquer ça. Par contre, sur la manière de le faire, où est-ce qu'on allait le faire, comment les acteurs, les habitants allaient pouvoir en être partie prenante et aussi en être bénéficiaires, tout ça s'est co-construit, ça en avait besoin.
Voilà, donc on va marquer une première pause musicale après ce balayage de ce que vous appelez ou ce qu'on appelle l'intelligence collective. On voit bien qu'elle est, ce concept est quand même à contre-courant d'un certain nombre d'idées que l'on entend ici ou là. Et ce que vous disiez, c'est dans 10 ou 15 ans, nous ne pourrons plus travailler autrement. On en reparlera après cette pause. Donc vous avez choisi un morceau de musique, vous pouvez nous dire ce que c'est ?
Oui, j'ai choisi en fait My Favorite Thing de Brad Meldo. Enfin, c'est une des variantes. Donc c'est à chaque festival de jazz, il le joue. Je suis une passionnée de jazz et je l'ai choisi parce que je savais qu'on allait parler d'intelligence collective et que le jazz pour moi est l'emblème même de l'intelligence collective, c'est-à-dire la capacité de fournir un énorme travail en termes de méthode, en termes de créativité. Et la capacité à développer son individualité en même temps en restant en écho et en résonance avec le reste du groupe.
Thank you.
Bien, ben, après cette pause jazzy, on va reprendre notre discussion autour de l'intelligence collective et puis on va avancer un petit peu pour que vous développiez aussi ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie circulaire. Mais sur l'intelligence collective, quand on vous entend, la critique qui peut être faite, c'est de dire « mais ça, c'est une douce utopie. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Les gens ne sont pas prêts à ça. » Vous répondez quoi à ça ?
Alors je réponds que c'est vrai, que les gens ne sont pas prêts à ça, qu'ils peuvent même avoir parfois des réactions très violentes quand on utilise le terme, ne serait-ce que parce que dedans il y a le mot intelligence et que j'ai pu constater que souvent les personnes se disent « oula, je vais être confrontée à ma propre intelligence », ce qui est bien sûr totalement faux, au contraire elle va être exacerbée, épanouie. Donc, je crois qu'il faut en tenir compte et j'en tiens compte en tout cas le plus possible. Il m'est arrivé de me tromper et d'aller trop vite avec certains groupes parce qu'il y a vraiment un besoin de transition, il y a vraiment un besoin de prendre le temps. Par contre, je pense que c'est vraiment pas utopique parce qu'aujourd'hui, il y a des centaines, voire des milliers d'exemples en France qui marchent très bien. Au Canada, ça fait beaucoup plus longtemps que ça existe. Et d'ailleurs, la plupart des méthodes très opérationnelles viennent du Canada. Il y en a une en particulier qui fera d'ailleurs très bien le lien avec l'économie circulaire. C'est une méthode qui a été développée par Adrien Payette qui s'appelle le co-développement opérationnel. Et c'est une méthode en 6 étapes qui est très très construite j'anime des groupes en fait avec de co-développement et qui permettent notamment avec des chefs d'entreprise de pouvoir petit à petit cheminer en intelligence collective autour d'un sujet qui paraît quand même assez complexe si a priori on n'avait pas cette culture là comme l'économie circulaire.
Alors justement, donc l'économie circulaire, parce que aujourd'hui nous sommes confrontés à la mondialisation des flux financiers, à la mondialisation du travail. Nous sommes confrontés à des questions environnementales majeures. Et cette notion d'économie circulaire, me semble, mais vous allez nous éclairer là-dessus, à la fois marier une exigence éthique, une exigence de respect de la nature, et aussi une exigence économique, c'est-à-dire, pour parler cru, une exigence financière. Vous pouvez un petit peu nous développer cette notion d'économie circulaire ?
Le premier principe de l'économie circulaire, c'est d'intégrer le fait qu'on vit dans un monde fini, c'est-à-dire que les ressources ne sont pas inépuisables. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Aujourd'hui, on a, si on prend le cas d'une entreprise qui fabrique, par exemple, des pinceaux, je pense à ça parce que je suis du pays de Saint-Brieuc, enfin j'habite dans le pays de Saint-Brieuc et c'est vraiment le pays du pinceau. Et aujourd'hui, pour créer des pinceaux, on prend du bois pour faire les manches, on prend du métal pour faire les corolles. Alors avant, on prenait des poils de cochon pour faire les pinceaux. Aujourd'hui, ils peuvent être en synthétique. On utilisait la ressource là où elle venait. Et puis, on fabriquait et c'était fini. Et on pouvait fabriquer avec des produits chimiques sans véritablement se préoccuper de la suite. Avec cette idée d'économie de la ressource, d'une part, et d'autre part, le fait de vivre dans un milieu fini, et d'autre part aussi, d'un intérêt de plus en plus croissant des consommateurs sur tout ce qui est question de santé et environnement, les entreprises vont rechercher à utiliser de la matière première qui va venir d'une autre entreprise ou d'un autre endroit, c'est-à-dire ça va être un déchet. Officiellement, c'était un déchet de, par exemple, l'entreprise qui est à côté ou quelque chose qu'on va trouver dans la déchetterie intercommunale. Donc, dans le cas des pinceaux, dans le cas des portes, par exemple, aussi, des fabricants de portes avant faisaient couper des arbres pour créer des portes. Dans une idée d'économie circulaire, il est tout à fait possible qu'on en arrive un jour à un système où la personne n'achète plus sa porte, mais elle la loue. Et quand elle la trouve un peu usée et qu'elle veut changer la déco, elle retourne chez le fabricant de portes qui va retravailler sa matière première. Donc déjà, il fait une économie énorme en termes de ressources. En même temps, il va utiliser des produits qui ne seront pas toxiques, ce qui veut dire en termes de santé dans les appartements, dans les maisons, ça va avoir un impact beaucoup plus fort. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'économie du bonheur. Et ensuite, quand il va redonner cette porte à son client va lui donner des conseils sur la manière dont il utilise sa porte. Donc une sorte de relation un peu virtueuse, et c'est pour ça qu'elle est circulaire aussi, avec l'utilisateur. On a cette idée de la coopération permanente entre celui qui fabrique, celui qui utilise, et le monde dans lequel on est.
On voit bien, quand on lit Ouest France, notre cher journal, il ne se passe pas de journée, enfin de jour, où des exemples arrivent qui corroborent votre propos. Je suis très frappé de ça. Partout en Bretagne, je parle de la Bretagne parce qu'on est en Bretagne, partout en Bretagne se développent toutes ces affaires-là. Et en même temps, on voit ça très peu relayé par les grands politiques. Aujourd'hui, évidemment, en pleine campagne présidentielle, je ne parle même pas des extrêmes. Ce sont des notions qui paraissent, je dirais, hors sol. Et c'est une critique qu'on peut vous faire, c'est de dire, bon, c'est bien gentil tout ça, mais écoutez, le monde étant ce qu'il est, ça fonctionne pas comme ça. Or, et ça, c'est ce que vous allez me contredire ou pas, il suffit d'ouvrir les yeux pour s'apercevoir que beaucoup, beaucoup, notamment dans les jeunes générations, fonctionnent de cette manière.
Exactement, je crois qu'il y a une véritable évolution. Moi, je suis issue d'une génération où c'était réussir, ça voulait dire gagner de l'argent, à n'importe quel prix peut-être aussi d'ailleurs, ce qui n'était pas très intéressant quand on y pense, mais c'était presque le projet d'une société dans les années 80. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup de start-up sont issus d'une volonté, d'un élan et d'une intention de pouvoir développer une économie, c'est-à-dire développer des marges, mais avec un principe d'impact positif pour l'environnement et pour la société. La deuxième réponse que je ferai par rapport à cette idée d'utopie, c'est que je suis pas sûre que LVMH soit une société, soit une entreprise très utopiste, ni Tarkett, ni etc. Et en même temps, ils font des choses absolument extraordinaires. C'est les premiers à s'être positionnés sur cette question d'économie circulaire. Si ça ne marchait pas, ils auraient laissé tomber très très vite. Donc pour moi, ça c'est quand même aussi une façon de pointer le fait que d'y aller présente beaucoup d'avantages et très peu de risques aujourd'hui.
Effectivement, l'exemple d'LVMH est quand même assez fabuleux pour des gens qui ne connaissent pas LVMH comme moi, si ce n'est l'image qu'on en a à travers la télévision. Bien, on va marquer une deuxième pause musicale. Vous avez choisi quel morceau, quel auteur, et pourquoi ?
Alors, j'ai choisi en fait un morceau qui me tient particulièrement à cœur de Dénès Prigent. Alors, je parle pas du tout le breton, je vais essayer de le prononcer quand même, hein, mais donc ça s'appelle Gortoz an Ran. Aran, voilà, et ça veut dire j'attends. Et c'est un morceau qui est très particulier pour moi, puisque je trouve que Dénès Prigent a cette capacité à incarner un territoire, c'est-à-dire vraiment la Bretagne dans sa profondeur, dans son caractère poétique et profond, qui me touche énormément. Et je trouve qu'il y a tout dans ce chant, non seulement de breton, mais également de celte. Et c'est une histoire d'embrun, de mer, d'attente aussi, vis-à-vis de quelqu'un qui peut-être ne reviendra pas, et aussi d'espoir.
Hey! passé des vignes et y allant et la gonnerie
Bienvenue sur RCF encore une fois. Je suis à nouveau avec Karine Ritan pour parler des questions d'intelligence collective, d'économie circulaire, de management des entreprises. Vous nous disiez tout à l'heure que dans les années 90, la jeune femme que vous étiez était portée par une idéologie de gagner très correctement sa vie, de réussite sociale, et qu'aujourd'hui, ces concepts d'intelligence collective, d'économie circulaire, vous avez fait, je dirais, faire un pas de côté par rapport à ces questions-là. Et je me faisais la réflexion, vous entendant, parce que nous n'appartenons pas à la même génération. Moi, ma génération, qui était 68arde, enfin, on dit 68arde parce que ça, c'est désagréable, donc ça fait plaisir à ceux qui n'aiment pas 68. Mais nous, notre leitmotiv, c'était « Papa, quand je vois ta réussite, j'ai envie d'échouer. » Et je veux dire, d'une certaine manière, vous renouez avec cet esprit, je dirais, pas simplement de mai 68, mais l'esprit de tous ceux et toutes celles qui, au long de l'humanité, se sont essayés à travailler autrement les questions de pouvoir.
Mmh. Et, c'est exactement ça. Avec peut-être une toute petite différence, c'est que peut-être qu'en 68, on était contre quelque chose. Il fallait briser, il fallait s'arrêter, on était contre quelque chose. Et que aujourd'hui, c'est pour. C'est pour une autre société. C'est pour une société dans laquelle on pourrait travailler, vivre ensemble, habiter une planète beaucoup plus saine, coopérer, être au clair avec soi-même et plus au clair avec son voisin aussi. Donc c'est un vrai projet de société, je trouve, qui est en train de se porter par beaucoup de jeunes et de moins jeunes d'ailleurs aussi. Et vous le disiez, particulièrement en Bretagne, parce qu'en Bretagne, il y a quand même une histoire de la coopération. Une habitude aussi de coopération qui fait que la Bretagne est assez précurseur effectivement au niveau national sur ces questions-là.
Oui, oui, c'est une terre d'économie sociale, effectivement.
Tout à fait.
Donc cette notion, encore une fois, de travailler ensemble, parce que vous me disiez aussi que le mot, quand on dit intelligence collective, alors il y a un certain nombre de gens qui se sentent agressés, soit parce qu'ils se trouvent pas intelligents, soit parce que le mot collectif les renvoie au kolkhoz. Donc c'est quand même parfois des vraies questions. Mais on a aujourd'hui, il suffit là aussi d'ouvrir les yeux, de vraies problématiques de management. Quand on regarde autour de soi, on voit fondamentalement une société qui est en burn-out. Et dans ce que vous vivez avec vos groupes, vous avez donc le sentiment que cette manière de travailler redonne du sens aux individus, aux collectifs, même dans les très grosses entreprises?
Oui, oui, oui. Dans les groupes que j'anime, donc il y a des groupes, c'est uniquement des chefs d'entreprise ou des managers, directeurs opérationnels, régionaux ou nationaux. Et effectivement, la première chose que j'ai constatée, c'est une explosion du nombre de burn-out et d'une mise en danger des managers, avec une vraie souffrance au travail. Et effectivement, dans un second temps, un questionnement et une ouverture de plus en plus fréquente de ces dirigeants à ces questionnements tournés vers l'intelligence collective, la coopération en entreprise, le sens en entreprise aussi et la manière de fonctionner. Mais ça ne se fait pas en un jour, surtout pas. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il m'arrive de ne pas utiliser le terme d'intelligence collective, d'entreprise libérée. On utilise ce terme-là. Quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, mais libérée de quoi ? Et j'avais envie de répondre juste de libérée d'un poids qui est extrêmement lourd et qui est souvent lié aux organisations, c'est-à-dire les organisations hiérarchiques qui avaient une légitimité, qui ont sans doute été nécessaires il y a encore 30 ou 40 ans et qui faisaient que le chef avait raison. On ne sait pas pourquoi, mais le chef avait raison et ça fonctionnait. Et qu'aujourd'hui, le chef a raison, si ça n'a pas de sens, est absolument insupportable et ça devient totalement contre-productif. Et en même temps, comme on est issu de cette société qui nous a construites, avec des organisations, y compris familiales, qui sont fondées sur cette hiérarchie et sur cette autorité. Il y a une véritable remise en question quasiment personnelle. Et ça ne se fait pas de manière simple du tout. Par contre, les entreprises qui y parviennent, qui ont passé le pas avec... ça vient toujours du chef d'entreprise qui décide de lancer ça. Et c'est vrai que les travaux d'Isaac Getz sur ce sujet-là sont absolument extraordinaires. Moi, je conseille à tout le monde d'acheter ces différents bouquins. On voit bien qu'il y a une vraie question de bonheur au travail, de coopération. Mais ça change tout, ça change absolument tout. Mais ça change aussi, effectivement, le rôle du chef, voire la présence des chefs et le nombre de strates qu'il peut y avoir dans une organisation. Et ça ne se fait pas de manière linéaire, on fonctionne par essai erreur, on sécurise énormément, parce qu'un groupe qui avance sans être en sécurité, c'est un groupe qui va se bloquer et qui peut avoir des réactions très violentes. Et je crois qu'au niveau sociétal, c'est un peu ce qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on peut marcher à reculons quand on a eu des espoirs et qu'on a quelques frustrations et qu'en plus, au final, on est arrivé même à se persuader qu'on n'y arriverait pas.
Oui, oui. En fait, les méthodes que vous préconisez relèvent un peu de ce qu'on connaît bien en Bretagne, c'est-à-dire de la voile.
Oui.
C'est-à-dire que quand on navigue, on navigue pas contre le vent. On se sert des éléments pour aller où on veut aller.
Exactement.
Mais il n'est pas question d'avoir une volonté forcenée d'aller au nord si le vent vient du nord.
C'est ça, c'est exactement ça. Et justement, à la fin de l'année 2016, j'ai participé à un colloque à la Sorbonne, justement, et il y avait Raphaël Larrère qui était également intervenant sur l'ouverture de la matinée. Et il y a une citation que j'avais notée à ce propos, parce que je la trouve tout à fait claire sur le rôle du manager en tant que celui qui fixe le cap, en tant que celui qui va accompagner le groupe, donc le bateau, vers ce cap. Et il s'appuie sur ses forces naturelles. Et il dit exactement, pour atteindre son but, celui qui pilote un voilier ne choisit pas sa route, il s'accommode des forces naturelles, il coopère avec ses forces sur lesquelles il n'a pas de prise. Et c'est exactement ça, l'entreprise libérée.
Mais écoutez, merci de ces quelques moments passés avec vous, Karine Ritant, parce que c'est vrai que ça redonne, si tant est qu'on en ait besoin, mais on en a besoin quand même collectivement du moral dans l'action collective, hein, puisque parfois dans ces sociétés individualisées, on a l'impression que seul l'individu tout seul peut réussir à vaincre les contraintes qui l'environnent. On mettra sur le site de la radio un certain nombre d'ouvrages sur lesquels nos auditeurs peuvent se pencher si ça les intéresse d'aller plus loin sur le thème des intelligences collectives et des économies circulaires. En tous les cas, merci de ce moment d'utopie, sachant que l'utopie, contrairement à ce qu'on pense, n'a jamais été un but inaccessible, mais quelque chose de l'ici et du maintenant, dans la complexité telle que Edgar Morin, effectivement, l'a fort bien mis en lumière. Et là aussi, même si la pensée d'Edgar Morin est complexe par définition, puisqu'il s'attaque au problème de la complexité, ça reste aujourd'hui l'un de nos penseurs les plus actuels et les plus innovants, malgré ses 90 ans presque.
Presque.
Merci à vous.
Merci
à vous. Au revoir et merci encore.